Mardi 5 novembre sera le dernier jour pour les citoyens américains qui le souhaitent pour voter. Voter pour choisir qui sera leur président pour les 4 prochaines années. La démocrate Kamala Harris ou le républicain Donald Trump, c'est à celui ou celle qui réussira à convaincre le maximum d'électeurs dans chaque État pour remporter les grands électeurs de chacun de ces 50 États. En pleine dernière ligne droite, le débat politique est extrêmement polarisé dans le pays. Et l'ordre du jour est donné par les meetings électoraux, les meetings politiques et les sorties médiatiques des candidats, mais aussi par la façon dont les médias s'emparent de sujets pour les mettre à la une. Dans cette émission, nous allons nous pencher sur les médias conservateurs américains, sur la façon dont ils se sont installés dans le débat public et leur rôle dans l'ascension de Donald Trump et dans sa tentative de retour au pouvoir. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'Atelier des médias. Comme toujours, cette émission dure 20 minutes si vous l'écoutez à la radio, plus encore si vous faites le choix du podcast. Tout d'abord, je précise à nos auditeurs que cet entretien a été enregistré le 22 octobre. Donc une éventuelle surprise d'octobre, si elle est survenue, aura pu arriver entre cette date et la diffusion de l'émission. En 2020, j'avais interviewé un universitaire français qui a pris pour sujet d'étude les médias conservateurs américains. Sébastien Mort est maître de conférences en sociétés et cultures des États-Unis à l'Université de Lorraine et membre du CREM, le Centre de recherche sur les médiations. Il vient de publier un livre intitulé « Onde de choc, histoire médiatique et politique de la radio conservatrice aux États-Unis ». Il est avec moi en studio. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Bienvenue dans l'Atelier des médias.
Merci.
Le 17 octobre, dans un article publié sur l'excellent site The Conversation, vous écriviez « L'écosystème des médias conservateurs exerce une influence souvent cruciale sur les destinées du Parti républicain. Depuis 2016, il est un allié proprement indéfectible de Trump. » Expliquez-nous la portée de ce mot « indéfectible ».
C'est-à-dire que dans l'histoire des médias conservateurs de la génération qu'on connaît actuellement, donc génération qui émerge à la fin des années 80, il y a à des moments des alliances entre ces médias et les élites du Parti républicain, mais ce sont des alliances qui ont tendance à être ponctuelles. La raison est que le public de ces émissions n'est pas entièrement acquis au Parti républicain, donc il y a évidemment, une grande majorité de conservateurs, mais parmi ce public, il y en a qui ont des réticences à voter pour le Parti républicain, dont ils estiment qu'ils ne représentent pas forcément leurs idées. Et à l'inverse, dans l'électorat républicain, il y a une grande partie de ces électeurs et électrices qui ne sont pas auditeurs ou auditrices de ces émissions. Là où ça change, donc c'est avec Trump, puisque avec Trump, en fait, le public devient l'électorat et l'électorat devient le public. Donc là où il y avait un danger financier, commercial à se rallier pleinement aux élites républicaines, avec Trump, en fait, ça devient profitable et c'est quelque chose qui est garanti des taux d'audience tout à fait pharaoniques pour certains et qui donc garantit en fait leur viabilité financière.
Quand on parle de l'écosystème des médias conservateurs, les radios ont une place méconnue, c'est l'objet de votre livre. Les figures de Fox News, par exemple, que sont Laura Ingraham et Sean Hannity, ont fait leurs armes à la radio avant de se retrouver sur cette télévision conservatrice.
Oui, alors c'est le cas de Laura Ingraham, donc, qui commence au printemps 2001 à la radio, donc pour un talk show qui s'appelle The Laura Ingraham Show, et qui se classe tout de suite dans le top 10 des émissions de radio les plus écoutées, quelle que soit l'allégeance politique. Et puis ensuite, elle commence à faire des apparitions dans The O'Reilly Factor, donc de l'émission de Bill O'Reilly, qui était le talk show du soir qui dominait sur Fox au début des années 2000 sous la présidence Bush. Et puis ensuite, à la suite du départ d'O'Reilly, en fait, elle a pris son créneau et donc elle s'est proprement implantée dans le prime time de Fox. C'est un peu différent pour Sean Hannity qui, lui, a commencé sur Fox dès le début de la chaîne à l'octobre 96 et qui, 5 ans après, a lancé son premier talk show. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet écosystème en est proprement un, puisqu'il y a cette stratégie d'essaimage multimodal où on retrouve les mêmes figures sur des supports différents à différents moments de la journée. Donc, ce qui permet aux auditeurs dont l'inclination naturelle est de s'exposer à des contenus conservateurs, de pouvoir composer un menu sur mesure à partir de ces différents médias.
Alors, tout est parti des talk-shows radiophoniques conservateurs, et on ne peut pas ne pas parler de la figure du père fondateur Rush Limbaugh, qui a lancé une émission au milieu des années 80, une émission de radio, et qui devient globale, qui est diffusée à l'échelle, on va dire, fédérale, dans de nombreux États à partir de l'été 1988. C'est lui qui, véritablement, a créé ce que vous qualifiez de nouveau genre radiophonique partisan. Expliquez-nous le contexte.
Oui, c'est lui. C'est lui qui le crée. Effectivement, vous avez dit qu'il commence au milieu des années 80. Il commence autour de Sacramento, en Californie. Et puis, il est repéré par un ancien producteur de radio du réseau ABC, puisque ABC est une chaîne de télévision, mais c'est aussi un réseau radiophonique. Et donc, cette personne, qui s'appelle Ed McLaughlin, voit le potentiel commercial de l'émission de Limbaugh et donc crée une société qu'on appelle une société de distribution sous licence et qui a pour but proprement donc de distribuer l'émission sur différentes radios à travers l'Union. Il faut bien avoir en tête en fait que la radio aux États-Unis au départ c'est un médium strictement local, donc il y a une offre qui en fait, correspond aux intérêts et aux préoccupations du marché radiophonique qui est servi par la radio. Et donc, là où c'est totalement en rupture avec le modèle radiophonique classique, c'est qu'on diffuse à des heures de grande écoute une émission avec un contenu national, une émission de 3 heures qui est composée essentiellement de monologues de l'animateur qui commente l'actualité, qui ne produit pas l'information parce qu'en fait, ce sont des émissions qui n'ont pas de la structure logistique et le financement pour produire l'information, mais qui en fait fonctionnent sur le méta-commentaire de l'information produite par les autres médias, par les médias grand public.
Et déjà, il y a des ingrédients que l'on va retrouver dans le discours trumpiste ensuite, c'est-à-dire ces monologues à bâtons rompus, avec des phrases parfois sans queue ni tête. C'est quelque chose de non écrit, alors que la radio est souvent un métier très très écrit. Je veux dire, alors que je suis en train de vous parler, j'ai beaucoup de feuilles de texte sous les yeux, là où Rush Limbaugh, à l'époque, se lance parfois seul à l'antenne, donne des surnoms à vilissant à certains responsables politiques, fait des imitations, des parodies, parfois c'est bête et méchant, et même très méchant.
C'est pour ça que je dis que c'est un nouveau genre, parce que la rupture, elle se fait aussi dans l'esthétique et dans le format de l'émission. C'est-à-dire que ce sont des émissions au format conversationnel. Alors, il n'y a pas d'invité sur le plateau, en tout cas pas chez Limbaugh. Limbaugh a décidé qu'il n'y avait pas de droit garanti par le premier amendement dans son émission et que lui était le dictateur bienveillant de l'émission. Mais donc, il est dans une espèce de conversation imaginée avec l'auditoire. Et effectivement, c'est le fil de la pensée qui se déploie tout au long de l'émission. Et donc, la centralité de l'animateur, elle est vraiment importante. On le retrouve, ça, par exemple, quand on analyse le vote de ces publics-là, on voit que la figure de l'animateur et l'attachement à l'animateur est une variable médiatrice du vote très, très forte. C'est-à-dire que le vote est fonction du degré d'attachement à l'animateur. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui préfigure Trump, parce qu'il y a une dimension que je qualifierais presque de prédicationnelle, en fait, dans ce genre. C'est-à-dire qu'il s'inspire des prédicateurs télévangélistes, et on retrouve en fait cette dimension-là chez Trump aussi. La raison aussi pour laquelle ça préfigure Trump, c'est ce que vous avez dit, donc le discours, l'esthétique, donc qui puise dans ce que la recherche en infocom du côté américain appelle l'esthétique de l'outrage, donc de moi ce que j'appelle l'indignation tapageuse. C'est-à-dire qu'on parle d'émissions conservatrices, mais en fait le mot est trompeur. On n'est pas là pour avoir une discussion dépassionnée sur ce que serait une perspective conservatrice traditionnelle de l'actualité, mais on est là en fait pour susciter l'indignation, hystériser le débat à grands coups d'attaques ad hominem, de réinterprétation hyperbolique des événements, prédiction de catastrophes imminentes. C'est-à-dire que quand vous écoutez ces émissions-là, on est dans un paysage totalement apocalyptique. Et vous avez cité tout à l'heure le recours donc à l'injure personnelle, au surnom. Effectivement, c'est quelque chose que Limbaugh met en place dès le début des années 80. Donc, par exemple, pour parler de Bill Clinton, il l'appelle Slick Willy, donc Willy le roublard. Et c'est ce qui fait immanquablement penser à Crooked Hillary plus tard dans la bouche de Trump. Donc, tous ces éléments de discours et tout ce rapport au public, en fait, il est mis en place dès la fin des années années 80. Et donc, vous avez un public qui est, d'une certaine façon, mis en culture tout au long de ces années et qui, une fois que Trump apparaît sur la scène nationale, en fait, est déjà familier de ces codes esthétiques.
Petite parenthèse, on est au milieu des années 80, on peut se dire c'est l'âge d'or de la télévision. Pourquoi est-ce à la radio que démarre ce mouvement de médias conservateurs américains ?
Alors justement, les années 80, ça commence déjà à être le déclin de l'âge d'or de la télévision hertzienne, puisque vous avez le câble qui fait irruption dans le paysage médiatique et donc qui déplace la télévision. Et avec le câble, tout un tas de nouveaux formats qui, au départ, ne sont pas des formats informationnels qui ne relaient pas un discours journalistique professionnel, mais qui en fait sont utilisés par les publics comme des moyens d'information. Et donc c'est ce moment où en fait on constate l'élargissement de la sphère de l'opinion, où les formats d'opinion en fait commencent à grignoter le champ de l'information professionnelle. Et donc le talk-show radiophonique en fait il s'insère dans cette brèche-là aussi parce qu'il y a un mouvement de déréglementation des contenus. Jusqu'en 87, les radios donc, qui sont par essence des médias locaux, ont une obligation de service au public qui consiste à devoir produire des contenus qui sont en lien avec leur public.
Oui, Sébastien Mort, parlons de ça effectivement, l'abrogation de la Fairness Doctrine, donc le principe d'impartialité. Donc c'est la FCC, la Commission fédérale des communications, qui en 1987 décide de déréguler. Là où, effectivement, maintenant, on parle toujours de régulation, donc du fait de réduire, de contrôler certaines choses, elle décide de faire l'inverse, et donc, bah, c'est une libération du discours. Le premier amendement est roi, on peut dire tout et presque n'importe quoi.
Oui, alors effectivement, donc à partir du moment où il n'y a plus cette obligation de produire des contenus en rapport avec les intérêts du public au niveau local, on peut diffuser des émissions à caractère national. Et puis, avec la Fairness Doctrine, disparaît aussi la possibilité pour les figures politiques qui se sentent ou attaquées ou lésées en termes de temps de parole de demander, en fait, un temps égal d'antenne sur le même média. Quand tout cela disparaît, en fait, ça ouvre des espaces absolument géants pour ces émissions-là. Et en fait, l'obstacle le plus important pour Limbaugh, ce qui ressort des entretiens que j'ai pu avoir avec des gens qui travaillent dans le secteur de la radio aux États-Unis, c'est pas tant son positionnement partisan que le fait qu'il avait une émission à contenu national. Et donc, à partir du moment où on lève cette obligation, eh bien, on peut permettre aux radios de diffuser ces émissions-là. Il faut aussi parler du modèle économique de l'émission, puisqu'en fait, les droits de l'émission sont cédés gratuitement aux stations locales en échange de leur temps de publicité nationale. Ce qui veut dire que si vous êtes une radio et qu'on vous cède les droits de diffusion du Rush Limbaugh Show, vous avez 3 heures par jour pour lesquelles vous ne dépensez absolument rien, puisqu'on vous donne l'émission déjà pré-packagée et prête à être diffusée.
C'est une vision d'entrepreneur média, d'une certaine façon.
Absolument. Et donc, en fait, le modèle médiatique et les enjeux économiques sont en fait aussi cruciaux que le contenu de ces émissions dans leur succès. C'est ce qu'on verra aussi au moment de l'implantation de Fox News. En fait, quand Murdoch veut implanter Fox, il choisit pas forcément les marchés de la câblodiffusion où réside une majorité d'électeurs républicains. Il veut rentrer dans des secteurs hyper concurrentiels pour se faire sa place et prendre la place de ses concurrents.
Alors parlons de Fox News, justement, Sébastien Mort. Fox News, lancé en octobre 1996 par Rupert Murdoch, vous l'avez dit, le premier slogan de la chaîne qu'elle a gardé jusqu'en 2017, c'est « Fair and Balanced ».
Oui, alors l'objectif de Fox, en fait, au départ, il est double, c'est-à-dire c'est faire concurrence à CNN, qui est le géant du câble, à l'époque, depuis 91, depuis la première guerre d'Irak, qui est le moment qui légitime, en fait, CNN comme chaîne d'information. Donc, faire concurrence à CNN, mais également se positionner comme chaîne d'info légitime. Et donc, du coup, il y a cette réappropriation de l'équilibre et de l'objectivité, qui est la norme cardinale du journalisme mainstream, pour, en fait, cacher une perspective qui se fait de plus en plus conservatrice au fil du temps. Et donc, c'est très intéressant de voir que malgré cette volonté d'être un relais du conservatisme, il y a quand même la compréhension qu'il faut se positionner dans le sillage de ces normes du journalisme dominant si on veut réussir. J'ajoute quand même que ce qui fait la marque de Fox, c'est pas tant son journal. Ni l'info, mais vraiment les émissions de commentaires de prime time, c'est ça, la fin de journée.
Effectivement, vous l'expliquez très bien dans votre livre qu'il y a deux services au sein de Fox. Il y a le service de l'information, auquel est associé le service électoral, l'election desk, toujours qui donne les résultats des élections, etc. Mais il y a également le service que vous appelez éditorial, dont relèvent les émissions d'analyse politique de prime time, tous les talk shows aussi, et ce sont eux qui drivent de l'audience.
Exactement. C'est avec ces émissions-là que Fox génère ses profits et fidélise son public, précisément parce que ces émissions-là, elles reprennent l'esthétique de l'indignation tapageuse qui a été mise en place avec Limbaugh et ses collègues dans les années au début des années 90. Et ce sont eux qui ont les taux d'audience les plus importants, même si effectivement, depuis l'échec de Trump en 2020 et depuis l'affaire Dominions, donc qui opposait Fox à ce fabricant de machines électorales, affaire à l'occasion de laquelle on a appris que en fait les animateurs tenaient un discours à l'antenne qui ne reflétait pas leurs convictions profondes, c'est ces deux moments qui ont créé des chutes dans les audiences de Fox News et donc une migration du public vers les concurrents de Fox que sont One American News Networks et Newsmax qui ont émergé dans les années 2010. Mais Fox, le prime time de Fox demeure quand même les émissions qui dominent en fait l'offre câblée du prime time par rapport à CNN et MSNBC.
On reviendra tout à l'heure sur One American News Network. Sébastien Maure, parlons de l'étiquette média conservateur. Vous estimez, vous le dites vous-même, quand bien même c'est le dans le titre de votre livre, que cette étiquette est parfois trompeuse parce que les rapports entre ces médias et le parti républicain sont fluctuants.
Oui, ils sont fluctuants. Alors, au départ, dans les années 90, il y a des rapprochements qui se font de manière ponctuelle, mais il n'y a pas une alliance scellée de manière permanente entre les élites du Parti républicain et ces émissions-là. Donc, ça commence en 92 avec Bush père qui fait une apparition dans le Rush Limbaugh Show parce que il sent que la dynamique ne lui est pas favorable et donc il a compris. À force de ce qu'on le convainque de l'importance de l'émission, que c'est dans son intérêt d'y faire une apparition. Mais il y a quand même une différence de conception du jeu politique qui fait que entre Limbaugh et Bush père, les affinités ne sont pas là. Quoi.
Ce sont des médias quand même de rupture. En tout cas, ils se présentent comme tels.
Exactement. Et la présidence de Bush père a été vécue par une partie des conservateurs comme un moment de trahison de la doctrine réaganienne et de l'orthodoxie du conservatisme. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de flottement entre les deux figures de Limbaugh et de Bush père. Il y a une gémellité beaucoup plus forte avec celui qui va devenir le speaker de la Chambre en 95, Newt Gingrich, qui lui a un projet beaucoup plus révolutionnaire, qui veut repositionner le Parti républicain sur les bases d'un conservatisme orthodoxe, fondamentaliste, et qui correspond beaucoup plus à l'éthos de Limbaugh, et ce qui donnera donc une espèce de tandem, de compagnonnage pendant toute la campagne des élections de mi-mandat de 94, et un effet mesurable de l'écoute de Limbaugh sur le vote en faveur des Républicains.
Sur certaines chaînes d'information continue, on le voit dès les années 90, tout est permis, même de partager des fausses informations en toute connaissance de cause. Il n'y a pas d'obstacle à les libertés d'expression. De toute façon, elle est garantie par le premier amendement. Et la Cour suprême aussi a certains arrêtés qui parfois vont dans le sens de cette libéralisation, on pourrait même dire, de la parole.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement peu d'exceptions aux protections garanties par le premier amendement. Il y a 8 catégories de discours qui ne sont pas protégés et les principales sont en fait la pornographie infantile, par exemple, et les autres catégories de discours non protégés en fait requièrent des éléments de preuve tellement drastiques que En fait, c'est extrêmement difficile de les atteindre. Donc, il y a une liberté pratiquement totale et le discours extrême, et y compris le discours de haine, en fait, est protégé par le Premier Amendement. Donc, ça laisse une liberté absolument totale à ces animateurs pour voilà, déployer le discours qu'ils souhaitent et effectivement, comme vous l'avez dit, véhiculer de la désinformation, des contenus fabriqués, sans absolument devoir rendre des comptes à qui que ce soit.
Vous parliez tout à l'heure de la notion d'indignation tapageuse. L'idée, c'est donc de susciter l'indignation des publics, de créer un scandale, de créer du scandale, d'hystériser le débat public. L'idée, c'est de créer quoi chez les gens, chez les auditeurs? Est-ce qu'il y a une de véritable fondement idéologique derrière tout ça? Ou alors on est aussi parfois peut-être beaucoup dans des idées commerciales de réseaux qui ont envie d'avoir de l'audience, toujours plus d'audience pour faire rentrer de l'argent?
C'est-à-dire que ce sont des émissions qui véhiculent, si on veut vraiment se concentrer sur le conservatisme en tant que tel, ce sont les principes du conservatisme qui sont portés par le Parti républicain depuis 30-40 ans. En fait, il n'y a pas un renouvellement de l'idéologie en tant que tel. On n'est pas du tout dans ce projet-là. Ce que ces émissions cherchent à faire, c'est constamment activer l'affectivité des publics et alléguer, entretenir l'idée que ce sont eux les détenteurs de la vraie identité des États-Unis, de la vraie Amérique, et que cette identité-là, elle est sous le coup de menaces perpétuelles et de menaces qui sont portées par les forces progressistes, donc l'industrie du divertissement, les organisations progressistes de terrain, les démocrates évidemment, et les médias d'information. Et donc en fait, on entretient constamment ce feu-là par une approche scandalisante de l'actualité, c'est-à-dire que tout est prétexte à trouver des scandales et des événements qui pourraient paraître mineurs ou anecdotiques aux yeux du journalisme professionnel, en fait, sont élevés au rang de sujets absolument importants et vitaux pour les publics de ces émissions-là. Précisément parce que ça renvoie à leur vision du monde et à ce qu'est leur identité profonde.
Donc ça reconfigure les hiérarchies de l'information, c'est ce que vous expliquez, Sébastien.
Exactement. C'est-à-dire que si vous prenez, si vous faites une liste des sujets qui sont traités sur ces émissions-là, dans ces émissions-là, et comment est-ce qu'elles sont traitées, vous voyez que l'agenda n'est pas le même et que les termes du débat, évidemment, ne sont pas les mêmes. Évidemment, il y a des points de recoupement quand il y a des grands événements de l'actualité. Par exemple, le débat entre Trump et Harris, il est en première position, à la fois dans les médias traditionnels et dans ces médias-là. Mais vous avez évidemment un cadrage de ces événements qui est radicalement, radicalement différent.
Et ces médias aussi sont toujours liés, ou ces émissions sont liées à la personnalité de leur présentateur ou présentatrice qui amène sa couleur, son parcours, son approche qui parfois est différente. Et ce qui est intéressant, c'est aussi le mélange des genres avec le politique, où l'on peut voir certaines figures comme Sean Hannity, par exemple, que l'on a vu dans un meeting de Donald Trump. Si on essaye de comparer avec la situation française, c'est un petit peu comme si Pascal Pro, qui présente l'heure des pros sur CNews, se retrouvait dans un meeting de Marine Le Pen, par exemple.
Oui, parce que précisément, depuis que Trump est rentré sur la scène politique nationale, il n'y a plus de risque commercial pour ces émissions d'apparaître comme trop proche du pouvoir ou trop proche des élites. Puisque précisément, Trump, toute sa marque, c'est de dire que c'est un homme qui représente le peuple, qui se positionne contre les élites politiques et médiatiques. Et donc, de ce fait, le ralliement systématique et le terme que j'emploie, c'est indéfectible, à Trump est en fait garanti des revenus et... C'est-à-dire que ça ne met pas en danger la marque, au contraire, ça consolide la marque de ces émissions-là. C'est pour ça qu'on voit Sean Hannity apparaître lors de meetings de Trump. Limbaugh l'a fait aussi. Trump était, par exemple, en amont du débat contre Harris, il est invité par Sean Hannity pour faire une émission devant un public. Il intervient également à l'antenne, soit par téléphone dans les émissions de la nouvelle génération, génération. Donc, par exemple, j'ai en tête Ben Shapiro, qui est voilà, qui suit dans les traces de Limbaugh, qui se positionne très haut aussi dans le classement des émissions radiophoniques, a ouvert son antenne à Trump, s'est rendu avec lui dans un cimetière juif à New York. Donc, il y a vraiment un appariement entre cet écosystème et Trump, parce qu'en fait, ils font partie du même univers idéologique et politique.
Depuis une dizaine d'années, il y a de nouvelles télévisions qui sont conservatrices américaines. On a parlé tout à l'heure de One American News Network, mais aussi de Newsmax, la première lancée en 2013, l'autre en 2014, et qui sont devenues des territoires de repli aussi pour Donald Trump, qui choisit, lorsqu'il est en froid avec Fox News, eh bien, de faire monter ses petites chaînes ou de leur donner plus d'importance.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, en fait, ça a un effet légitimant sur ces chaînes-là, qui au départ sont des chaînes que peu de monde regarde, qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers et logistiques pour produire des contenus de qualité, parce que Fox, en fait, est très, très à la pointe en matière d'esthétique. Il y a un dispositif de production qui est très, très, très fort et très développé. Et ces chaînes-là ne l'ont pas. Et c'est à partir du moment où Trump fait son entrée sur la scène politique, qu'il y a un ralliement opportuniste, en tout cas de la part de One American News Network, à Trump et à la sphère MAGA, parce qu'en fait ces gens-là se rendent compte que, par exemple, quand ils diffusent en entier les meetings de Trump et ses discours, eh bien voient leur taux d'audience grimper en flèche. Donc c'est vraiment lui, je dirais, qui les a mis sur orbite. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, quand il y a des tensions dans la relation entre Fox et Trump, comme ça peut arriver à un certain moment, quand certains animateurs se montrent critiques envers lui, notamment les animateurs de l'info, ou quand les animateurs du prime time ont certaines timidités à soutenir le discours selon lequel il a perdu, lui, voilà, tape sur Fox et fait les louanges de One American News Network, et du coup, ces réseaux-là voient des pics d'audience qui correspondent à ces moments où il prend position en leur faveur.
Sébastien Maure, les relations entre Donald Trump et la chaîne Fox News actuellement sont revenues au beau fixe, puisque l'ensemble des animateurs, la quasi-intégralité, écrivez-vous, des animateurs de la chaîne soutiennent désormais activement la candidature de l'ancien président. On sait que pour Fox News, ça avait été compliqué, le fait que Donald Trump perde la précédente élection, parce qu'ils avaient perdu de l'audience. Que souhaitent-ils faire maintenant, eux? Leur seul espoir, c'est que Trump gagne à nouveau cette nouvelle échéance électorale?
Je crois qu'il y a un intérêt financier absolument crucial, parce qu'en fait, plus Trump est gagnant et plus il est montré comme gagnant, plus il est montré comme l'incarnation de cette Amérique perdue et comme celui qui va rétablir un ordre qui aurait été mis à mal par les démocrates, plus les taux d'audience sont élevés. Donc eux, ils ont tout intérêt à ce que Trump effectivement arrive aux affaires. Et puis il y a aussi des enjeux d'ordre plus institutionnel en termes de réglementation des médias sur lesquels évidemment ils pensent pouvoir peser en cas de victoire de Trump.
Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais je vais vous la reposer tout de même, puisque je lisais dans une interview à la radio-télévision suisse début 2023, vous disiez: je pense qu'il faut voir avant tout Fox News et ces entreprises-là avant tout comme des entreprises commerciales avant d'être des entreprises idéologiques. C'est business d'abord pour vous?
Oui, c'est business d'abord. Alors, il y a eu des expériences de médias conservateurs dans les années 90 qui se voulaient avant tout des médias idéologiques et qui, en fait, ont été des échecs cuisants. Parce que ce qui fait le succès de ces émissions-là, c'est la personnalité de l'animateur, c'est sa capacité à établir le contact avec le public. C'est aussi la dimension divertissante. Alors, elle a vraiment disparu depuis les années 2010, mais au départ, dans les années 90, Limbaugh agrémentait son show de petits sketchs sonores, de musique, et il était pas rare, en fait, qu'il essaye de faire de l'humour à la télévision.
On n'a pas de late show conservateur, c'est ça?
Il n'y a pas de late show conservateur, parce que c'est un genre, en fait, qui ne fonctionne pas à droite, de la même manière que ce genre de format de 3 heures d'émission de radio avec quelqu'un qui harangue l'auditoire ne fonctionne pas à gauche.
J'aimerais aussi qu'on parle de la dimension de ce que ces médias ont créé, ont impulsé sur le parti conservateur américain. Et je me demandais, Est-ce qu'à votre avis, le Parti conservateur américain s'est fait dépasser par sa droite, incarnée par ces médias conservateurs tapageurs, outranciers? Ont-ils, ces médias, attiré le Parti conservateur et, d'une certaine façon, influé sur ses idées pour faire qu'il y a eu une droitisation du Parti conservateur américain?
Oui, alors, est-ce que ce sont les médias conservateurs qui ont créé l'hyper-droitisation du Parti républicain? Ça, c'est compliqué à démontrer, mais il y a quand même une structure à la fois dans le domaine politique et médiatique qui permet à ces médias d'influer sur le discours et le positionnement. La façon dont ces médias influent sur le processus politique, c'est au moment des primaires. C'est-à-dire que si un candidat sortant à la Chambre, par exemple, ou un sénateur sortant, n'a pas donné satisfaction, ou est jugé comme n'ayant pas défendu les principes fondateurs de la doctrine conservatrice, eh bien ces émissions-là soutiennent quelqu'un d'autre dans les primaires. Donc il y a une espèce de surenchère à la radicalisation, en fait, qui se met en place, puisque tout simplement, si vous êtes un candidat républicain, vous avez tout intérêt à avoir le soutien de ces émissions-là, plutôt que de les avoir contre vous. Donc en fait, il y a une fonction d'accréditation des candidats aux primaires qui est absolument colossale, en fait, qui produit des effets très forts. Et c'est en fait par ce biais-là, s'il y a une influence sur la radicalisation du Parti républicain, eh bien que cette influence se fait par le biais des primaires.
Sébastien Maure, vous qui êtes spécialiste des médias conservateurs américains, durant la nuit de l'élection à venir, qu'allez-vous regarder comme médias conservateurs américains pour essayer de saisir la température dans le camp républicain aux États-Unis?
Je vous dirais que j'aurais tendance à observer ce que fait Fox, puisque Fox, lors de la dernière élection, avait donc donné Biden victorieux dans l'Arizona, ce qui lui avait valu en fait une levée de bouclier de la part du public. Donc j'aurais tendance à plutôt regarder Fox, dont le service de l'info et le service électoral souhaite quand même garder une légitimité dans le champ médiatique et donc de ne pas dire n'importe quoi le soir de l'élection. Et à mon avis, je pense que c'est paradoxalement un indicateur assez fiable.
Merci beaucoup Sébastien Maure.
Merci.
Je rappelle que vous êtes maître de conférences en sociétés et cultures des États-Unis à l'université de Lorraine, dans ma ville natale de Metz, et membre du CREM, le centre de recherche sur les médiations. Votre livre « Onde de choc, histoire médiatique et politique de la radio conservatrice aux États-Unis » vient tout juste de paraître aux éditions de l'Université de Bruxelles. Je vous dis à bientôt dans l'Atelier des médias.
Merci, à bientôt.
C'est la fin de cet Atelier des médias que vous pouvez, comme toujours, écouter dans une version plus longue en podcast. Sébastien Maure et moi-même sommes restés quelques 30 minutes ensemble en studio. Choisissez la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore RFI Pure Radio. Merci à Simon De Creuse qui assure l'enregistrement et la réalisation de l'Atelier des médias. Si vous voulez nous écrire, voici notre email atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.